14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Acte révolutionnaire, la prise de la Bastille répond aussi à un réflexe de peur. Les Parisiens se savent encerclés par des soldats dont ils ignorent les intentions. Ils vont alors tenter de trouver des armes pour se défendre. La prise de la Bastille va avoir dans toute l'Europe un retentissement considérable. Les philosophes allemands et anglais de l'époque considèrent cet événement comme le triomphe des idées nouvelles, la fin d'un monde. Louis ! Louis XVI ! Louis Capet ! Mais que faites-vous ? Des troupes se massent autour de Paris, autour de Versailles. Plus de 30 000 hommes en armes. Déjà, lorsque Mirabeau a lancé sa fameuse réplique où il est question des baïonnettes, elles étaient là, ces baïonnettes, dehors, prêtes à entrer en action contre les poitrines des représentants du peuple. Bien sûr, il faut, comme vous le dites, protéger les députés. Mais à ce point, est-ce raisonnable ? Bien sûr, l'agitation dans Paris est inquiétante et même l'armée n'est pas sûre. Voilà pourquoi, Louis, vous avez demandé à des mercenaires suisses et allemands de cerner les villes où l'inquiétude progresse en même temps que la démocratie. Des bruits courent. Les aristocrates ont ourdi un complot. Marie-Antoinette et les princes en sont la tête pensante. L'assaut va être donné contre la capitale. Il faut faire vite. Le 7 juillet 1789, à l'Assemblée nationale, un comité de 30 membres est chargé de préparer la Constitution. Le 8 juillet, cette commission demande au roi, sur les conseils de Mirabeau, d'éloigner les troupes massées autour de la capitale. Le souverain répond par un non ferme. En fait, il écoute à Versailles la vieille garde, celle des princes, cette vieille France de 10 siècles aux jambes trop lourdes pour avancer. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale se proclame Assemblée constituante. C'est une décision lourde de sens. Cela signifie qu'elle ne reconnaît plus au roi son pouvoir et que ce pouvoir est aux mains des élus du peuple. Le 9 juillet 1789, l'ancien régime n'est plus. Que faire ? Se demande Louis. La reine et les courtisans le poussent à congédier Necker, le populaire Necker. Son renvoi mettrait le feu aux poudres. Necker est quand même renvoyé, le 11 juillet. Dès le lendemain, Camille Desmoulins, un familier de Mirabeau, un ancien condisciple de Robespierre à Louis le Grand, harangue la foule qui s'est assemblée dans le jardin du Palais Royal.
Aux armes ! Prenons tous des cocardes vertes, couleur de l'espérance. Ils ont renvoyé Necker. C'est une Saint-Barthélemy des patriotes qui se prépare. Arrachons les feuilles des marronniers. Formons-en une cocarde, en signe de ralliement. Je vous appelle, mes frères, à la liberté.
Piètre orateur, il est bègue, mais excellent bâtisseur de discours, Desmoulins n'a pas de mal à convaincre la foule qui se précipite dans les jardins des Tuileries. La troupe charge, mais ne parvient pas à disperser les manifestants. Le 13 juillet, 40 barrières de l'octroi de Paris sont pillées, saccagées et incendiées. Partout, on cherche des armes. La grande crainte est que le roi donne à la troupe qui entoure Paris l'ordre d'attaquer. Il est trouvé 360 fusils à l'hôtel de ville. À l'aube du 14 juillet 1789, un fourrier nommé Labarthe crie
« Il y a des armes à la Bastille !»«
À la Bastille ! À la Bastille !» Près de 1 000 Parisiens se dirigent vers cette construction, vieille de plus de 400 ans, où le roi fait emprisonner, par lettre de cachet, dans des conditions extrêmement confortables, des fous, des faussaires ou des fils de famille. Les prisonniers y emportent leurs meubles, y reçoivent comme chez eux, la nourriture y est excellente. Peu utilisée, la Bastille doit être détruite, d'autant plus que ce n'est pas un chef-d'œuvre d'architecture. Ce que les Parisiens désirent, ce sont les 30 000 fusils qui y sont entreposés et les canons installés sur ses tours. 82 invalides et 32 Suisses la défendent. Et dans les magasins sont entreposés 125 barils de poudre. Le pont-levis a été relevé, mais à coups de hache, deux hommes parviennent à briser les chaînes qui le libèrent. Les assiégeants se précipitent alors dans la cour de la Bastille. À ce moment seulement, le gouverneur, le marquis Bernard de Launay, constatant que les Parisiens sont armés, fait tirer une décharge de mousquet. Les premiers rangs tombent. C'est la stupeur chez les assaillants. Alors un cri s'élève.
« Trahison ! La Bastille tire sur les Parisiens !»
L'assaut va reprendre dans l'après-midi, mais les Invalides décident de se rendre. Launay menace dans un premier temps de tout faire sauter. Mais il se rend aussi, sur la promesse que toute sa garnison et lui-même auront la vie sauve. Les portes sont ouvertes. Les assiégeants se ruent alors dans la cour, tuent et pendent des Invalides et des Suisses. Ils s'emparent de Launay pour le conduire à l'hôtel de ville, mais en cours de route, ils l'assassinent et lui coupent la tête qu'ils installent au bout d'une pique. Toute la troupe arrive à l'hôtel de ville où le prévôt des marchands, Flessel, subit le même sort que Launay. Un cuisinier, ivre, nommé Desnaux, assure le découpage des victimes dont les entrailles vont être portées en triomphe et même consommées, dans un Paris plutôt interloqué par ces atrocités. Dans la capitale circulent librement les prisonniers de la Bastille qui ont été libérés. 4 faussaires, 2 fous, 1 débauché et 1 sadique.
Non, sire, c'est une révolution. 14 juillet 1789. Il fait nuit à Versailles. Louis XVI s'est endormi après quelques heures de chasse. Comme à l'accoutumée, il a mis à jour le carnet où il note ce qu'il a rapporté. Ce jour-là, il est revenu bredouille. Il a écrit « rien ». Le grand maître de la garde-robe, le duc de La Rochefoucauld-Liancourt, l'un des chefs de l'aristocratie libérale, apprend dans la nuit ce qui s'est passé à Paris. Il décide de réveiller le roi.
« Sire, la Bastille a été prise. »«
La Bastille ? Prise ?» répond Louis XVI, qui sort difficilement de son sommeil.
« Oui, sire, prise par le peuple. Le gouverneur a été assassiné, et puis Flessel. Leurs têtes ont été portées dans la ville au bout d'une pique. »«
Mais c'est une révolte !» s'écrie Louis XVI, qui semble sortir d'un songe de 1000 ans. Et Liancourt de lui donner cette réplique fameuse qui lui était quand même servie sur un plateau royal.
« Non, sire, c'est une révolution. »
Au lendemain de la prise de la Bastille, le roi décide d'aller vers le peuple afin d'éviter d'autres débordements. Le 15 juillet, il prend soin de nommer le populaire Lafayette commandant général de la garde nationale. Le même jour, Bailly est proclamé maire de Paris. Le 16 juillet, Louis XVI rappelle Necker. Le 17, le peuple se réunit devant l'hôtel de ville. Lafayette a demandé à ses troupes de porter la cocarde tricolore qu'il vient d'imaginer, le bleu et le rouge, couleur de Paris, entourant le blanc de la royauté. La foule est nombreuse, bruyante. Soudain, le silence se fait. Voici le roi. Aussitôt qu'il arrive, Bailly s'avance vers lui, une cocarde à la main. Le roi la prend volontiers et la met à son chapeau.
« Sire, »
dit alors Bailly,
« Henri IV avait reconquis son peuple. Aujourd'hui, le peuple a reconquis son roi. »
Une immense ovation s'élève. Le peuple, en liesse, se dit que la révolution est terminée, que son souverain va désormais agir pour le bonheur de tous ses sujets.
Lafayette appelle son fils George Washington. Autre temps, autre mœurs. Le 11 avril 1774, Marie-Paul-Joseph Gilbert Mottier, le marquis de Lafayette, 16 ans et demi, épousait dans la chapelle du château de Noailles, rue Saint-Honoré à Paris, Marie-Adrienne de Noailles, 14 ans et demi. 3 ans plus tard, il s'embarque pour l'Amérique afin d'apporter son aide aux colonies qui se battent pour leur indépendance. George Washington le renvoie en France. Sa mission, convaincre le roi d'organiser un véritable corps expéditionnaire. De retour aux États-Unis, Lafayette reçoit le commandement des troupes de Virginie et participe à la bataille de Yorktown, au terme de laquelle les États-Unis deviennent indépendants. Rentré en France en 1782, il est député de la noblesse en 1789, membre fondateur de la Société des Amis des Noirs et francs-maçons. Il rêve de devenir le Washington français. D'ailleurs, il admire tellement le premier président des États-Unis qu'il appelle son propre fils George Washington. Sa popularité est immense jusqu'au 17 juillet 1791. Ce jour-là, Lafayette fait tirer sur les Parisiens qui manifestaient au Champ de Mars. Le 19 août 1792, voulant rétablir une monarchie constitutionnelle, il est déclaré traître à la nation. Réfugié à Liège, capturé par les Prussiens puis les Autrichiens, il n'est libéré qu'en 1797. Durant le Premier Empire, il vit retirer des affaires publiques, puis se rallie aux Bourbons en 1814. En 1824, les États-Unis l'accueillent pour une tournée triomphale dans 182 villes. 200 000 dollars et 12 000 hectares en Floride lui sont offerts. En 1830, il soutient Louis-Philippe, à qui il donne la cocarde tricolore. Lafayette meurt à Paris le 20 mai 1834. Il est enterré au cimetière de Picpus, à Paris.